En Galates chapitre 6, nous allons terminer ce livre, livre magnifique, hein, il faut dire. Le plus qu'on connaît, le plus qu'on ne s'étonne pas que le réformateur Martin Luther a écrit un bouquin 10 fois plus grand que la petite lettre. Mais enfin, franchement, il est tellement riche et puissant. Et ce chapitre 6 va terminer le discours sur la liberté. Donc, comme on l'a déjà vu la semaine dernière, chapitre 5, on commençait en parlant du fait que nous sommes libérés, donc pour rester dans la liberté, et ensuite que nous sommes libérés pour marcher, donc dans la liberté. Et aujourd'hui, donc en chapitre 6, on continue, mais on va devenir encore plus pratique et on va voir ce que j'appelle plutôt les mains de la liberté. Les mains qui font le travail libératrice et le travail de la liberté. Et on conclure sur le cœur de la liberté et aussi le contre-cœur de la liberté. Donc, entre les mains et le cœur, nous avons notre étude ce soir en chapitre 6. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Première chose donc, les mains de la liberté agissent en douceur et agissent pour la restauration. Ils disent, frère, si un homme vient à être surpris en faute, déjà, par le mot frère, nous voyons que nous sommes sur un autre registre, très loin de, oh, vous... aux Galates insensés, mais maintenant c'est frère, c'est beaucoup plus adouci. Et il faut dire, si quelqu'un lutte avec le légalisme et il prend une autre personne en flagrant délit de même prendre le stylo du travail et l'amener chez lui, c'est clair. Ce qu'il faut faire, c'est d'écraser le pécheur et d'ainsi rendre la justice. Ça, c'est la mentalité légaliste. Quoi que soit, le péché, on le vise, on le dévoile, pour le plus grand nombre puisse le voir, et on l'écrase comme une petite grappe. Et c'est ça, enfin. L'idée de ceux qui veulent suivre la loi et être légalistes. Ah, mais ici, il dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les. Et j'ai toujours trouvé intéressant qu'ils disent, vous qui êtes spirituels. Parce que, effectivement, s'il y a des gens qui se trouvent spirituels, ce sont bien sûr les légalistes. Parce qu'ils sont spirituels en eux-mêmes, enfin, ils y croient. Mais Paul dit, non, la vraie spiritualité agisse autrement. Alors, une autre chose que je trouve intéressante, c'est si un homme vient à être surpris en quelque faute. Et ça est quelque chose que je trouve intéressant. Paul a déjà décrit dans Galates 5 et aussi en Romains 6 par exemple, que on peut devenir esclave du péché. En fait, justement, celui qui se donne au péché devient son esclave. Et nous savons tous que l'esclave n'est pas libre, n'est plus libre. C'est pour ça, justement, que Paul, il écrit ceci. Et pour l'esclave qui n'est plus libre, mais peut-être qui a goûté la liberté, qu'est-ce qu'il fait de ses chaînes? Plus souvent, il essaie de les cacher. Et ce que j'ai remarqué au fil des années, c'est que 80% des fois, les gens ne confessent pas au péché, mais il faut qu'ils soient découverts ou être surpris en quelque faute. Il y a parfois des gens qui confessent sans que personne autrement, c'est assez rare, hein, que les gens ils viennent d'eux-mêmes et ils confessent comme ça devant le pasteur, devant les autres, oui, je lutte avec ceci. Mais franchement, la grande majorité des gens, à cause de notre nature humaine, parce que nous sommes des fils et des filles d'Adam et Ève, que eux aussi, ils ont essayé de s'esquiver, même dans la présence de Dieu. Ce qui arrive, c'est que les gens, ils deviennent esclaves à leur péché. Ils essaient de le cacher. Donc, quand ce péché, c'est ce qu'il dit, le mot qu'il utilise, en fait, ça décrit quelqu'un qui est pourchassé par un chasseur. Donc, qui est justement pourchassé. Donc, il est là-dedans, mais il est surpris, il est trouvé, il est découvert. C'est-à-dire que, peut-être en eux-mêmes, ils ont dit, ben, peut-être j'aimerais bien m'y échapper, mais ils ne l'ont pas dit. Et puis, par la grâce de Dieu, et j'insiste vraiment sur la grâce de Dieu, ils sont découverts un jour par quelqu'un d'autre. Et puis, tout leur jeu est exposé. Alors là, comment est-ce qu'il faut réagir? Paul dit, il faut chercher à redresser la personne, réconcilier la personne en douceur. Donc, l'Église, les mains de la liberté, ne ferment pas l'œil sur le péché. Justement, on tend la main vers la personne, pour justement tirer la personne pour qu'il se mette debout. On ne ferme absolument pas l'œil sur le péché, on ne l'ignore pas. Mais on ne fait pas non plus des mains de la liberté un coup de poing pour frapper, taper la personne. Non, il dit, on essaie quand même de redresser la personne avec un esprit de douceur. Et pourquoi ? Il dit, prends garde à toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Parce que nous sommes tous des pécheurs, et tôt ou tard, la tentation revient. Et donc, il est absolument essentiel que je me reconnais pour qui je suis. C'est pour ça aussi qu'il faut redresser la personne en douceur. Parce que qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas, je me gonfle de l'orgueil en pensant que j'ai quelque chose à offrir à l'autre. Et soit je continue à gonfler de l'orgueil et le diable est très content de ça puisque lui aussi, c'est son péché par excellence. Et ça me donne plutôt l'alliance avec lui dans l'orgueil puisque c'est son péché et le mien. Ou bien, puisqu'il n'y a rien qui aveugle une personne mieux que l'orgueil, ça m'apprête pour justement tomber à cette même tentation. Donc, c'est à la fois une action offensive, aussi bien que défensive, spirituellement parlant. Offensive pour sauver la personne. Défensive pour moi-même, la douceur et la maîtrise de soi. Et dit, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Donc, pour ces Galates qui veulent suivre la loi, ils disent, ben, voilà ce qu'il faut faire. Portez les fardeaux les uns les autres. Et justement, si quelqu'un tombe, peut-être la meilleure chose, c'est que vous soyez une aide pour la personne, pour que la personne ne tombe plus. Donc, peut-être vous pouvez même être volontaire puisque le Seigneur vous a révélé la chose. Donc, c'est vous qui peut-être travaillez avec la personne, vous priez pour la personne, mais c'est aussi vous la personne qui fait les petits rappels. Bon, tu continues dans la foi. Enfin, tu continues, tu tiens bon. Et donc, comme ça, on porte les fardeaux de l'autre. On essaie justement. Bon, on ne peut pas ne pas pécher pour la personne, mais on peut l'encourager aussi de ne pas le faire. Et ainsi, on porte les fardeaux les uns les autres. Aussi bien que on prie les uns pour les autres. On sait que quelqu'un, il a un grand besoin, donc on prie pour la personne. Et si jamais on entend qu'il y a une solution, bon, bien sûr, on fait ce qu'on peut. Et ainsi, il dit, nous accomplissons la loi de Christ. Pourquoi? Parce que ça, c'est aimer son prochain en acte. Donc les mains de la liberté agissent par amour, mais elles agissent, en portant les fardeaux les uns les autres. Et si quelqu'un pense être quelque chose, alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même. Alors ça, c'est une autre chose qui est intéressante. Il ne faut pas lire ce verset comme « Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, comme s'il y a ceux qui sont quelque chose et ceux qui ne sont rien. » Non, non, non. Nous sommes tous rien. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par la grâce. Et si nous pensons que nous sommes quelque chose de mieux, c'est un mensonge. Un mensonge qui, tôt ou tard, va nuire à notre bien-être spirituel. Ce verset, d'un point de vue personnel, est un verset assez pertinent pour moi parce que pendant longtemps, j'étais enfant unique à la maison. Et les enfants uniques ont une certaine mentalité qui est égoïste, hein, parce que on est le centre de notre univers familial et tout c'est vraiment centré sur nous-mêmes. Et ça prend parfois des mauvaises habitudes. Et j'avoue que quand je me suis converti, j'avais adopté cette mentalité quelque part. Donc je savais que Dieu m'aimait, qu'il aimait tout le monde. Mais quelque part, même si je ne disais pas, je pensais que Dieu m'aimait et presque il m'aimait et il tolérait les autres. Enfin, comme il m'aimait un peu plus que les autres, un peu comme mes parents m'aimaient puisque j'étais enfant unique. Donc évidemment, tout était bien pour moi. Et je crois que ça m'a rendu assez odieux envers les autres. Et Dieu a fait son travail en moi. Et c'est bien parce que il a utilisé les gens justement pour me corriger, des gens évidemment fatigués de ce genre de mentalité. Mais le grand problème, il faut dire que quand quelqu'un est sous l'influence de cette illusion, souvent quand les autres réagissent tout naturellement contre une telle arrogance, la première chose qu'ils pensent, c'est que, bah, ils me persécutent. Et ce que j'ai pensé aussi, c'est les gens qui sont, enfin, contre moi parce que, bah, ils ne voient pas que je suis aussi spirituel que je le suis, enfin, que je ne suis pas aussi aimé. Et puis, finalement, je me rappelle très très bien quand j'ai commencé à comprendre et saisir que, enfin, finalement, Dieu il a mis tout le monde. Mais si on pense qu'on est plus spirituel que quelqu'un d'autre, si on pense qu'on est plus aimé que quelqu'un d'autre, si on pense qu'on suit Dieu mieux que les autres, c'est une illusion. Et donc, ce qu'il faut, c'est il faut rester à la croix. Il n'y a rien de mieux que la croix qui puisse corriger cette mentalité-là, qui puisse vraiment nous enlever de ça. Le plus de temps que nous passons au pied de la croix, où nous contemplons justement ce que Christ a fait pour nous, tout ce que lui, il a subi pour nous, en réalisant que c'est mes péchés qui l'ont cloué là. C'est une chose libératrice, franchement. Parce que même avoir la liberté de dire « Oui, je sais qui je suis, Michael Dante, pêcheur. » Être capable de le dire de plein cœur, franchement, c'est libératrice. Parce que c'est la vérité. Et après, toutes ces illusions tombent à l'eau. Et ça nous aide justement à voir les choses différemment et rentrer justement dans ce que Paul veut dire. Parce que, regardons aussi, verset 4, il dit que chacun examine son œuvre propre. Et alors, il trouvera en lui seul et non dans les autres un sujet de glorifier. Justement, ce n'est pas un sujet de glorifier si on s'examine en pensant aux autres. Non, ça, ce n'est pas la glorification. Enfin, ça, c'est plutôt la vantardise. Parce qu'on trouve facilement quelqu'un qui est moins spirituel, moins bien que nous. Mais on peut se dire, mais on se compare à qui alors? À Christ. Mais où est justement l'occasion de glorifier, puisque c'est perdu d'avance si on se compare à Christ? Ben justement, c'est ça. Parce que ainsi nous puissions voir ce que Christ a fait en nous. Et voilà le sujet de se glorifier. Parce que c'est lui qui l'a fait. Et donc, ce n'est pas à nous, mais c'est toute une grâce. Et ça, c'est un sujet vraiment joyeux. Car chacun portera sa propre charge. Et ça marche dans les deux sens du terme. Sa propre charge, c'est-à-dire, il faut, comme Paul a dit, il faut, en Thessaloniciens, si quelqu'un veut manger, il faut qu'il travaille. Donc oui, nous portons tous notre charge. Il y a des responsabilités, responsabilités familiales, ou responsabilités aussi envers notre employeur, responsabilités envers le gouvernement. Chacun porte sa propre charge. Responsabilités aussi envers l'Église. Exercer le don que Dieu nous a donné. Servir Christ au sein de l'Église. Chacun portera même sa charge devant le tribunal de Christ. Nous sommes tous responsables pour nous-mêmes. Pas d'avocat, pas d'appel. On porte tous notre propre charge. Et ce n'est pas en contradiction avec porter les fardeaux les uns les autres. Justement, je trouve que l'harmonisation de ces deux choses se trouve dans les paroles de Christ, celui qui est le plus grand parmi vous sera le serviteur de tous. Parce que le serviteur, il porte les fardeaux des autres et voilà sa responsabilité. Il s'occupe de sa propre charge en s'occupant des autres, parce qu'il est le serviteur. C'est ça sa responsabilité. Et ainsi pour nous, nous nous occupons bien de la charge que Dieu nous donne si nous suivons dans les traces de Christ, lui qui était le plus grand des serviteurs, Paul aussi, qui ne jouait jamais la carte du grand apôtre. Et même quand il devait se défendre, c'était vraiment contre-cœur. Mais toujours en se décrivant en tant qu'esclave de Christ. Et c'est comme ça qu'il y a justement une harmonie entre porter les fardeaux des autres et porter sa propre charge. Verset 6, j'avoue, c'est un de ces versets que que j'ai du mal, parce que ça part de moi. Et donc, que celui à qui on enseigne la parole fasse participer à tous, c'est bien celui qui l'enseigne. Et donc, oui, c'est normal que l'Église soutient ses responsables financièrement. Et ça revient même à la loi, ce qui est intéressant parce que ces gens-là voulaient suivre la loi et donc ben Paul, il parle justement de quelque chose qui est décrit dans la loi. Tous les tribus d'Israël devaient donner les prémices de leur récolte et donner ça aux prêtres, aux lévites, pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer. Et donc, c'est tout à fait naturel que ça continue dans l'Église de Dieu. Alors, on me demande pourquoi dans l'Église, on ne passe pas le panier. Ben, tout d'abord, je crois que c'est parce que nous sommes une petite Église et il n'y a rien de plus gênant que de passer un panier dans une petite église où tout le monde le voit. Et de toute façon, sûrement sur la montagne, Jésus a dit, quand on fasse l'aumône, quand on le donne en secret. Donc, première chose. Deuxièmement, je pense que quelque part, c'est bien d'aller à la boîte et donner sa dîme, donner son offrande. Ce n'est pas à moi d'aller envers vous chercher le don. Non, c'est à vous, comme moi je le fais. Moi je le fais, je donne de moi-même. Et je crois que ça c'est la méthode et la chose la plus naturelle de le faire. Donc c'est vous qui louez Dieu avec vos offrandes. Et donc, la boîte est à votre disposition. Et ne vous y trompez pas, il dit. On ne se moque pas de Dieu. Qu'un homme aura semé, il moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc, il y a cette moisson. Et j'aime bien comment il commence ce sujet. Ne vous y trompez pas, Dieu voit tout. Il le voit, on ne se moque pas de Dieu. Et on pense en Actes chapitre 5, cette histoire où il y avait Ananias et Sapphira, que eux, tous les deux, ils ont vendu leur champ qu'ils avaient en commun. Et puis, comme ils avaient le droit, ils ont gardé un certain portion pour eux-mêmes. Mais ils ont fait semblant de tout donner devant tout le monde. Comme Pierre disait, ils montaient contre le Saint-Esprit et ils étaient jugés sur le champ. On ne se moque pas de Dieu. Dieu est patient, mais on ne se moque pas de lui. Et puis donc, la question vient. Est-ce que Dieu frappe toujours les gens? Je suis convaincu que oui. Alors j'aurais beaucoup du mal à dire avec grande certitude qu'un tel ou un tel était frappé par Dieu, parce que nous savons aussi que Dieu nous fait traverser par des moments douloureux, souffrants, pour justement édifier notre foi. Et de toute façon, ce n'est pas moi le juge. Mais je ne vois pas du tout une contradiction dans le fait que Dieu, qui est le juste juge, puisse de temps à l'autre enlever quelqu'un ou arrêter la vie de quelqu'un qui est allé trop loin, puisqu'il est saint. Et s'il nous a donné ça dans le livre aux Actes, et aussi il y avait d'autres scènes où Paul, par exemple, frappait un homme d'aveuglement qui s'opposait à l'évangile. C'était pas que Paul avait cette puissance capricieuse en lui, et il l'a fait comme ça. Non, je crois que c'était Dieu qui voulait faire ça et qui parlait à Paul de dire une chose, et c'était la puissance de Dieu qui l'a fait au travers de l'apôtre pour montrer la puissance de l'évangile et l'importance justement que les gens doivent faire attention à cette question qui porte la vie éternelle le bien ou bien la condamnation. Parce que on ne se moque pas de Dieu, il y aura un jugement aussi. Là, on parle de ceux qui s'aiment pour la chair. Oui, il y aura la corruption. Mais le juste juge, jugera. Et nous savons qu'à la fin des temps, il va avoir la résurrection des morts, ceux qui vont en enfer. Si nous s'aimons pour l'esprit, alors là, nous pouvons attendre une moisson pour la vie éternelle. Justement, il y avait un pasteur, un ancien pasteur du pays de Galles, qui un jour m'a vraiment encouragé avec ce verset. J'étais un peu découragé, puis il me disait, bah, tu sais, si tu continues à travailler pour la moisson, si tu continues à s'aimer pour l'esprit, s'aimer l'évangile, qu'est-ce que tu vas récolter? Et puis c'est vrai, ce qu'on sème, on récolte. Et donc on peut attendre à ça. Alors quand? Ça c'est pas la question. Ou ça c'est pas la question non plus. Ça c'est ce que le Seigneur fait. Mais la chose la plus importante c'est ceci. Ne nous laissons pas de faire le bien, verset 9, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc continuez à partager, continuez parce que, honnêtement, si nous ne s'aimant rien, c'est la seule manière d'être assuré à 100% que nous n'allons jamais rien récolter. Il ne faut pas avoir peur de l'apostasie qui viendra à la fin des temps, comme c'est décrit en Timothée, en Thessaloniciens. Ça, c'est le Seigneur qui dirige toutes ces choses. Il a dit, ce qu'on sème, on va récolter. Et justement, peut-être un des signes de cette apostasie sera un grand manque des gens qui s'aiment. Peut-être. Donc, continuons au fond. Et en ce qui concerne, dernière chose, les mains de la liberté, ils sont à l'aide des autres. Trop souvent dans l'église évangélique, je trouve, c'est un peu notre honte, c'est que on n'est pas toujours présent aidant les autres. Et surtout dans une ville comme Paris, où il y a des millions de gens, où est-ce qu'il faut commencer? Paul, il nous donne la réponse. Les frères, il faut commencer dans son église. Il faut commencer par la famille de Dieu. Et puis après. Et donc ça, c'est un réconfort pour justement les églises qui sont de notre taille. N'ont pas beaucoup de moyens. Mais il ne faut pas utiliser ça comme une excuse non plus. C'est bien aussi d'aider aussi les gens de l'extérieur aussi. Mais on doit quand même s'occuper des nôtres. Ensuite, il y a le cœur de la liberté. Le cœur de la liberté et aussi le contre-cœur. Verset 11, verset controverse. Voyez avec quelle grosse lettre que je vous écris de ma propre main. Controverse parce que c'est un de ces versets qui disent beaucoup et rien du tout. Alors, il y a plusieurs raisons qu'on pense. D'abord, vous rappelez qu'en chapitre 2, il parlait de comment vous seriez prêts même d'arracher vos propres yeux pour me les donner. Donc, les gens disent, il écrit dans les gros lettres parce qu'il était malvoyant. Tout simplement. Pourquoi pas? Mais ça montre son cœur, justement, que même s'il est malvoyant, il va écrire cette lettre. Une autre possibilité, c'est que cette lettre est tellement remplie d'émotions qu'il crie des gros lettres en majuscules d'émotions pour que les gens comprennent. l'émotion derrière, encore le cœur qui est derrière. Ou bien une autre possibilité, c'est que c'est écrit par quelqu'un d'autre, et puis il ajoute cette paragraphe-là, en annexe, et il écrit en gros lettres, justement pour que ça attire l'attention. Écoutez vraiment ceci. Il faut que je dise une chose très importante. Et voilà en gros les trois grandes lignes. Il n'y a aucun moyen de les prouver. Donc, ce que vous voulez. Mais verset 12. Tous ceux qui veulent se faire bien voir, selon la chair, vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix du Christ. Car eux-mêmes, ces circoncis, n'observent pas la loi, mais ils veulent que vous vous fassiez circoncire pour se glorifier dans votre chair. Donc première chose, tout ce qu'ils veulent, Paul dit voilà le contre-cœur de la liberté. Ils veulent compter les têtes, en fait. Ils veulent que vous fassiez le plus grand prix, le prix même de vous mutiler pour que, entre eux, quand ils sont en réunion, il n'y a personne qui entend, ils disent, bah oui, bah moi j'ai eu 10 personnes qui suivent maintenant la loi de Moïse et toi, et puis bah, l'autre ils disent, bah moi 20, et puis, bah voilà, et ça devient leur gloire à eux, mais eux-mêmes ils ne suivent pas la loi. Ça c'est intéressant aussi. Rappelez-vous aussi du livre des Actes où Pierre a reçu la vision d'aller à la maison de Cornée pour prêcher l'évangile. Première fois qu'on prêche l'évangile aux païens. Alors où était-il? Il était à Joppa, dans la maison de qui? Simon, qui faisait quoi comme métier? Oui, c'est ça, le tanner. Donc, c'est quelqu'un qui travaille avec les peaux des animaux, qui touche les carcasses des animaux. Une chose formellement interdite par la loi. Pierre vivait contre la loi. Bon, on peut avoir des exigences si on fait ce métier, mais Pierre était pêcheur de métier. Et donc, nous voyons qu'il vivait même à manière hors de la loi quand il reçoit cet appel. C'est-à-dire que il n'y a personne qui puisse vraiment accomplir la loi, et ce n'était pas quelqu'un qui suivait bien la loi qui était appelé à partager l'évangile aux païens. C'était Pierre qui était dans un moment un peu délicat, on pourrait dire, vis-à-vis de la loi. Et donc Paul, ben là, il était carrément envoyé, et là, il dit, parmi les païens, parmi les Grecs, j'ai vécu comme un Grec. Et parmi les Juifs, comme un Juif. Afin de les gagner à Christ. Donc, il dit, fais attention à ces gens. C'est leur gloire à eux. Mais verset 14, et là, nous avons le vrai cœur. Quant à moi, certes non. Je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. C'est comme il dit, le monde et moi, nous avons dit tout ce qu'on a à dire. On se comprend. Moi, je suis mort à lui, et lui, il est mort à moi. On n'a plus rien à dire. Pourquoi? Parce qu'il est crucifié avec Christ. Et justement, dans les Épîtres et dans le livre aux Actes, à part des premiers jours après la Pentecôte, combien de membres voyez-vous dans les différentes églises? Quel est le nombre de personnes dans les églises de Paul? On ne sait pas, parce que ce n'est pas enregistré. Effectivement, Paul, il ne comptait pas les têtes. Il était crucifié à ça. Sa gloire était la croix de Christ. Parce que c'est là où il trouve la vie. Car ce qui compte, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature. C'est bien qu'il a ajouté ça. Ce n'est pas la circoncision, donc tout ça, balayé, mais ce n'est pas non plus l'incirconcision. Et ça, c'est intéressant parce que aujourd'hui, c'est plutôt ça. Surtout dans les églises où on a adopté la doctrine où l'Église a remplacé Israël. Et c'est comme on respecte toutes les autres cultures du monde, sauf le leur. Disons, si quelqu'un vient de ce milieu et il vient à Christ, il faut qu'il change complètement. Il se déploie de tout ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas qui compte, c'est l'incirconcision ni circoncision. Ce qui compte, c'est d'être né de nouveau. C'est ça qui compte. Parce qu'il n'y a plus ni juif ni grec. Et donc, ce n'est pas la peine non plus de survaloriser le fait de ne pas être juif non plus. Nous sommes tous un en Christ. Si nous sommes tous à Christ, c'est ça qui compte. Être à Christ. Parce que c'est là où il y a la vie éternelle. Sur tous ceux qui suivront cette règle, paix et miséricorde, ainsi que sur l'Israël de Dieu. Alors voilà encore un autre verset controverse. Et tout se joue un peu sur le mot « et » qui ne paraît pas dans ma version. Le mot « et » qui dans le grec se traduit par « et » et qui se traduit aussi par « aussi ». Alors, voilà tout l'enjeu. Parce que on peut lire le verset de deux manières. Soit on lit comme ça. Donc, sur tous ceux qui suivront cette règle. Quelle règle? Que ce n'est ni la circoncision qui compte, mais être une nouvelle créature, donc qui suit la liberté, cette règle-là, être né de nouveau, sur lui soit la paix et la miséricorde. Aussi que l'Israël de Dieu. C'est-à-dire, aussi sur l'Église qui est maintenant le nouveau Israël de Dieu. Israël qui veut dire gouverné par Dieu. Si on veut traduire le mot, donc en grec ça fait kai, si on veut le traduire pour aussi et, il faut dire que depuis même Justin Martyr, donc un des pères de l'Église, il a adopté cette formulation. Et puis, bien sûr, depuis le troisième siècle, l'Église catholique l'a adopté, les réformateurs ont adopté. Et il faut dire que la majorité de l'Église a adopté cette formulation. Or, il y a une autre façon de le lire, que je trouve beaucoup plus claire. Donc, si on traduit le mot, donc « kai » avec « et » qui est la plus naturelle de le traduire, surtout sachant que il y a aussi le mot « pour sûr » qui est répété. Donc sur tous ceux qui suivent la règle, paix et miséricorde, et aussi sur Israël de Dieu. Donc, ça décrit deux personnes. Deux groupes différents, sur ceci et sur cela. Donc, ça veut dire qu'on parle de deux groupes différents. C'est-à-dire qu'on parle de tous ceux qui sont nés de nouveau, qui soient remplis de la paix, de la miséricorde, aussi bien que tous ceux qui viennent de la nation Israël, qui croient en Jésus, donc Israël de Dieu. Comme il dit en Romains 9, ce n'est pas tous ceux qui viennent d'Israël qui sont d'Israël. En parlant de ces juifs qui suivent le Messie, qui sont vraiment spirituels. C'est-à-dire que, j'aime bien cette version que j'ai ici, sur tous ceux qui suivront cette règle paix et miséricorde, ainsi que sur Israël de Dieu. Et là, c'est assez clair, je trouve. Il y a deux groupes différents. Ceux qui suivent les règles et Israël de Dieu. Et donc, ça colle mieux, je trouve, dans le contexte du livre où on parle justement des gens qui veulent faire passer leur truc, leur loi, si vous voulez, qui se disent des gens très spirituels, mais qui en réalité ne le sont pas. Or, Paul dit, donc, le vrai Israël, ceux qui suivent Dieu, notamment, donc, Paul, Barnabas, Pierre, ces gens-là qui vivent la liberté chrétienne, qui n'essaient pas d'imposer, Jacques aussi, qui n'essaient pas d'imposer la loi, qui sont effectivement cet Israël racheté par le sang de Christ, sachant que ils sont tous un en Christ. Et je crois que c'était presque fait comme, si je peux, puisse même dire, comme il taquine les autres. Parce que notez bien le prochain verset. Du reste, que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Autrement dit, bah arrête de m'embêter avec ça. Et vous aussi, parce que j'ai beaucoup souffert pour Christ, et Paul, il portait vraiment des cicatrices, justement, à cause de tout ce qu'il a enduré pour l'évangile. Et donc, c'est comme il dit, mais arrête de, avec toutes ces histoires, vivant, donc, dans la liberté, paix et grâce, surtout ceux qui suivent la règle de la nouvelle naissance, ainsi que ceux qui sont dans la maison d'Israël, qui sont nés de nouveau. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Et c'est ça le point final. C'est ça ce qu'il voulait qu'ils comprennent dès le début. Que ce n'est pas par les œuvres de la loi, mais c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et que donc cette grâce soit avec notre esprit. En Jésus-Christ. Amen.